Radio Estable.
Morning Edition from NPR News.
Radio Estable.
Radio Rosana Pipari.
Lo que se reproduce que esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et la première escale sonore d'un jour dans le monde nous emmène en Guinée, plus précisément au nord-ouest, à Boké, région très riche pour sa bauxite. Mais qui en profite, à votre avis? À suivre aussi dans le feuilleton écolo du mardi, prosaïquement, on parle de la fermentation, du processus de digestion. Bref, vous verrez que le méthane dégagé par les pélérots des troupeaux, tout simplement, est bien plus élevé qu'on le croyait, donc bien plus nocif. 18h45, la revue de presse des correspondants de France Inter passe par Moscou et par Mexico. 18h55, l'édito du journal Le Monde, et c'est Sylvie Kaufmann ce soir avec l'Irlande, qui a un nouveau Premier ministre et qui est aussi le seul pays où les gays ont le droit de se marier, mais les femmes n'ont pas le droit d'avorter. Mais tout de suite, je vous emmène au fond d'une cave en Syrie, pas n'importe quelle cave.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Delphine Minoui.
Bonsoir Fabienne.
J'ai refermé votre livre hier soir qui s'appelle Les passeurs de livres de Daraya avec une sorte de coup de blues en fait. Parce qu'on est triste à la fois de quitter ces personnages qui sont extrêmement attachants, mais on est triste aussi parce que c'est pas une belle histoire forcément. Enfin, c'est une très jolie parenthèse, mais ça finit pas forcément bien. On est en train de parler de guerre, on n'est pas au milieu des rêves, on est au milieu des gravats dans ce que vous nous racontez. Mais dans ce chaos, donc, il y a une parenthèse. Et c'est une bibliothèque que vous allez découvrir par hasard sur une photo. La bibliothèque est à Daraya, c'est en petite banlieue de Damas, 7-8 km de Damas seulement. Et ça commence juste comme ça, en fait. Vous voyez une photo et vous vous dites « qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque ? J'ai envie de savoir qui il y a derrière, en fait. »
C'est une photo complètement incongrue puisqu'on voit des rangées de livres qui encadrent des jeunes. L'ambiance est assez obscure, il n'y a pas de fenêtres. Et il y a une légende qui explique qu'il s'agit d'une bibliothèque secrète au cœur de Daraya, donc une banlieue de Damas, assiégée par le régime de Bachar al-Assad. Et là, je suis époustouflée. Je me dis, au cœur de la guerre, il y a des gens qui résistent pacifiquement et qui résistent avec des livres.
Et vous cherchez du coup sur Internet, ça prend un certain temps, d'où ça peut venir. Vous finissez par tomber sur Ahmad, il a 23 ans, Ahmad seulement. Et c'est lui qui a découvert le premier stock de livres, il a commencé cette bibliothèque. Il a cette phrase magnifique, il dit « En ouvrant le premier, j'ai eu le même frisson que lors de ma première manifestation ».
Oui, parce qu'il y avait ce sentiment de liberté. Cette possibilité de choisir, c'est-à-dire de piocher des livres. Parce que les souvenirs qu'il avait des livres à l'époque du régime de Bachar al-Assad avant la révolution de 2011, c'était l'interdit, c'était la censure, c'était la propagande. Ces livres d'école, il les ouvrait sur la photo du président. Et tout d'un coup, à portée de main, dans cette situation complètement abracadabrante, sous les bombes, à portée de main et sous les décombres, il a des livres.
Et c'est vrai que ce qui est très émouvant chez tous ces personnages que vous rencontrez au fur et à mesure, c'est que c'est pas des grands lecteurs au début, en fait. Ils découvrent la lecture en même temps qu'ils sont à l'intérieur de ce siège-là. En découvrant aussi des auteurs, des thèmes et des choses qui ne les avaient jamais effleurés avant.
Oui, ils ont appris à lire avec la guerre. Parce que ces livres, ils arrivent à en exhumer environ 15 000 des ruines de la ville. La ville est détruite à presque 90%. Et au fond d'un trou, dans un abri, ils installent des étagères et ils créent leur bibliothèque secrète. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils se nourrissent pas seulement d'ouvrages issus d'auteurs du monde arabe. On est loin de l'image de terroriste qu'a voulu donner le régime.
Non, ils lisent Paolo Coelho.
Ils lisent l'alchimiste de Paolo Coelho. Ils lisent des poèmes de Mahmoud Darwish, ce poète palestinien. Et ce qui est encore plus épatant, c'est qu'ils adorent lire des ouvrages de développement personnel, de self-help à l'américaine, comme les cette habitude des gens efficaces de Stephen Covey. Et c'est impressionnant parce que tout d'un coup, grâce à ces livres, ils ont le monde à portée de main, alors qu'eux-mêmes sont emmurés, ils sont coupés du monde.
Et alors justement, parce qu'il faut parler quand même de cette ville de Daraya qui a une tradition particulière, une tradition de résistance depuis les années 90 et peut-être même avant. Et c'est cette tradition-là aussi qu'on voit finalement au fond de cette cave avec ses bouquins.
Oui, c'est cette tradition qu'ils ont perpétuée puisque la mobilisation, le mouvement civique de Daraya remonte en effet aux années 90, donc bien avant la révolution. Et les livres ne sont qu'un des nombreux exemples de cet activisme qu'ils ont continué à propager. En parallèle des livres, ils ont aussi créé des forums de discussion, ils ont fait des cours de Sciences Po, des cours d'anglais. En fait, cette agora, j'appelle ça une agora souterraine, cette bibliothèque, c'est devenu une sorte de d'universités clandestines. Pour eux, c'était un grand cours de rattrapage. Et ils ont tout appris sous les bombes.
Ce qui est fascinant, c'est qu'il faut expliquer aux gens, c'est une vraie bibliothèque. Ça veut dire qu'on vient, on choisit des livres, on les ramène chez soi ou on les lit sur place. Et il y a ce règlement à l'entrée, par exemple, qui est génial et qui dit n'oubliez pas de rapporter le livre, etc., etc. Et ça paraît complètement absurde dans une ville qui est détruite à 90%, mais au contraire, est-ce que c'est ce que vous écrivez ? Là, on est dans une vraie normalité, en fait. Donc, au moins, dans cet espace-là, on est dans une autre vie que les bombes et les catastrophes. Il faut dire que Taria, c'est une ville notamment qui non seulement est bombardée, mais aussi d'armes chimiques. Enfin, c'est vraiment l'un des pires endroits de près de Damas à l'époque, en tout cas entre 2000.
Oui, il y a eu des attaques 14, chimiques. 15, il y a eu un grand massacre 13. Également en 2012. Vers la fin du siège, à l'été 2016, il y a également eu des attaques au napalm. Mais ce qui est impressionnant, en effet, c'est que cette bibliothèque devient un laboratoire d'expérimentation démocratique. C'est-à-dire au pire de la situation de la guerre, des bombardements, et ben ils ont quand même imprimé une page A4 sur laquelle ils demandent aux gens de respecter les règles de la bibliothèque, de bien rendre le livre quand ils empruntent, de ne pas parler
place.
Trop fort,
ouais.
Alors qu'il y a quand même le bruit des bombes autour. Et ce qui m'a beaucoup marqué aussi dans ce sens d'engagement civique, d'éthique, de respect de l'autre, c'est aussi cette mission qui s'était donnée quand ils ont récolté les livres.
De les rendre.
Ils ont tenu à mettre un numéro dans chaque ouvrage et à y apposer le nom du propriétaire, avec cette idée qu'un jour, la guerre sera finie et chacun pourra récupérer ses ouvrages.
Il y a même des choses qui sont assez drôles, en fait, parce qu'ils sont pleins d'humour. Ils sont tout jeunes, hein. Ce sont des gamins, vraiment, qui ont décidé de faire leur révolution. Ahmad, par exemple, ses parents sont partis, et lui a décidé de rester pour faire sa révolution. Ils ont une espèce de petit journal qui s'appelle Foutoir, qui a un faux horoscope et qui dit, par exemple, « Attends-toi à une sale journée, toutes les routes sont fermées. Bah, » avoir de l'humour dans ces moments-là et dans ces conditions-là, quand on est là en train de faire un petit journal qu'on essaie de renéotyper, c'est quand même fou, quoi.
C'est vraiment la résistance par la beauté des mots face à l'horreur permanente de la guerre.
Et alors, en même temps, vous avez un doute à un moment, ou en tout cas des interrogations sur qui sont ces gens qui sont à l'intérieur, parce qu'après tout, est-ce que la ville n'est pas non plus gangrénée par les djihadistes ? Qu'est-ce qu'on en sait finalement ? Parce que la ville est fermée, vos dialogues, ils se font par Skype, par WhatsApp et autres. Et vous leur posez la question cash, en fait. Est-ce que Daria est un repère d'islamistes ? Et la réponse est magnifique, c'est non. Daria nous protège contre ça, en fait.
C'est ça qui est fou, c'est que à l'inverse d'autres villes de la rébellion anti-Assad, on pense notamment à Alep, quand Alep était encore tenu par l'opposition, il n'y a jamais eu d'infiltration d'organisations extrémistes, voire de combattants étrangers, puisque la ville était assiégée. Donc pendant 4 ans, ils ont vécu à huis clos, en vase clos, entre eux, et c'est comme ça qu'ils ont toujours réussi à maintenir, éveiller cette flamme démocratique de Daraya qui est très très singulière.
Et d'ailleurs, vous dites, ils disent, pardon, c'est l'un de vos personnages que vous allez retrouver après, parce qu'à un moment, il faudra quitter Daraya. Le siège nous a paradoxalement protégés contre toute tentative de radicalisation. Il a permis de maintenir vivant l'esprit de Daraya. Pendant 4 ans, nous sommes restés entre nous. Ça n'a pas toujours été facile, mais nous avons réglé nos différends par le dialogue.
Et c'est un dialogue permanent. C'est-à-dire qu'ils passaient leur temps à discuter, à débattre, dès qu'il y avait le moindre répit. Et ce qui m'a vraiment fascinée, c'est que parmi les lecteurs assidus de la bibliothèque, il y avait également des combattants anti-Assad. Mm-hmm. Il y a un jeune, Omar, qui passait son temps sur la ligne de front, mais dès qu'il avait un moment libre, il venait à la bibliothèque et il empruntait des livres. Et au pic de la guerre, quand il n'avait même plus le temps de revenir dans cette agora, eh bien, il a créé sa mini-bibliothèque sur la ligne de front.
Et c'est vrai que ces personnages sont très attachants. Ahmad, dont on parlait, Chazi, qui se promène toujours avec un petit appareil photo. Et tout le monde finit par défiler devant votre Skype et devant votre WhatsApp, parce que vous aussi, ils imaginent que ça les fascine et ça les émeut même de voir que ça vous intéresse, que ce qu'ils sont en train d'essayer de créer à l'intérieur de Daraya. Non,
bon, on a vraiment tissé une amitié, je dirais, une amitié incongrue au fil de toutes ces années, de toutes ces discussions, parce qu'on a dialogué en permanence, le jour, la nuit, au petit matin, au gré des caprices de l'Internet, parce qu'il faut savoir qu'ils avaient bidouillé des petites installations au fin fond de Daraya, mais que parfois, pendant des journées entières, je n'arrivais pas à garder le contact avec eux.
Vous disiez que dans cette espèce d'agora, il y avait aussi effectivement des forums. Moi, il y a une phrase qui m'a frappée, et je ne me souviens plus qui la prononce, en fait. C'est l'un de ces jeunes gens qui dit « Moi, j'aurais aimé qu'on soit mieux préparé à cette révolte, au niveau intellectuel comme au niveau religieux. On a manqué de temps, finalement, que ce soit pour ceux qui ont pris les armes ou ceux qui ont fait la révolution politique. » Et c'est intéressant ce qu'il dit, ce petit garçon, en fait, parce qu'ils ont, encore une fois, ils sont tous très jeunes. On était content de la faire, cette révolution, mais peut-être qu'on aurait dû mieux penser les choses.
Bah, tout s'est passé très très vite. Et puis aujourd'hui, ce qui est triste, c'est qu'ils le reconnaissent, c'est que la révolution ne leur appartient plus, leur pays ne leur appartient plus. La Syrie est devenue un terrain de conflit par acteurs interposés. Et finalement, ils sont dépassés aujourd'hui par les événements. Le sort de leur pays se noue entre des décisions, entre les Américains, les Russes, les Turcs, les Iraniens. Tout le monde est impliqué dans la Syrie aujourd'hui.
Et parce qu'il faut partir de Daraya, à un moment, c'est même Bachar al-Assad qui les chasse, en fait. Sinon, de toute façon, la ville sera détruite. Elle l'est déjà à 90%. Ils se retrouvent, en général, un peu plus loin. Certains retrouvent leur famille. Vous en avez croisé certains, d'ailleurs, à Istanbul. L'un d'eux a cette phrase. On voulait incarner une troisième voie, montrer qu'une alternative au régime et à Daesh était possible. Mais au fond, est-ce que ça veut dire que la troisième voie n'existe pas? Ça, c'était un doux rêve, mais ça n'a jamais existé. Ça n'a pas pu avoir lieu.
Il y a une phrase très marquante qui a été prononcée par Ahmad, où il me disait « On peut détruire une ville, mais on ne peut pas détruire des idées. Les idées, elles sont toujours vivantes. Peut-être qu'elles ont été mises en suspens. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont été obligés d'arrêter leur combat au nom de la paix parce qu'ils ont été dépassés par les événements, parce que Bachar les a forcés à l'évacuation. » Mais pour eux, ce qui est important aujourd'hui, c'est la future génération. Et c'est pour ça qu'Ahmad, aujourd'hui, à Idlib, donc dans cette province qui est à 300 kilomètres de Damas, où il a été évacué, près de la frontière turque, il vient d'inaugurer une petite bibliothèque ambulante pour les femmes et pour les enfants. Donc, à sa façon, il continue à poursuivre cet esprit de Daraya.
Voilà, Ahmad est là, comme vous dites, effectivement. Shadi n'est pas très loin non plus. Non, en Turquie, lui, non, peut-être.
Shadi est à Istanbul, puisqu'il a été blessé, donc il doit faire de la chirurgie et de la physiothérapie. Voilà,
et Omar est mort. Et c'est important aussi de dire encore une fois que c'est pas un roman, l'eau de rose, c'est pas un roman, d'ailleurs, c'est une vraie histoire, un vrai récit journalistique. Et il n'y a pas que des belles choses là-dedans, forcément. Omar est mort et d'autres aussi. En tout cas, Delphine Minoui, ça s'appelle Les passeurs de livres de Daraya, une bibliothèque secrète en Syrie. C'est publié au Seuil et ça sort très exactement après-demain, jeudi,
le 5 octobre.
Merci beaucoup.
Merci
Delphine
beaucoup.
Minoui.
France Inter, Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Et avant de poursuivre, je voudrais qu'on s'arrête juste une minute sur une vérification qu'on avait très envie de faire après l'interview hier soir, vous qui étiez là, de l'ambassadeur d'Espagne en France. Et voici ce qu'il disait lorsqu'il parlait des violences policières pendant le référendum.
La vérité n'est pas simple. Et parfois, on a trafiqué des images. Et je peux vous donner des exemples. On a employé des images des gens qui ont été blessés par la police régionale de la Catalogne en 2012. Et on les a fait passer pour des images des personnes qui ont été blessées hier.
Cette vieille dame qu'on a beaucoup vue sur les réseaux sociaux, vous pensez que
c'était
un fake ?
La vieille dame qu'on a vue sur les réseaux sociaux est tombée d'un escalier.
Voilà, cette vieille dame, vous l'avez vue vous aussi sur les réseaux sociaux. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez beaucoup réagi. Elle est effectivement en bas d'un escalier avec une sorte de doudoune bleu pâle si vous allez chercher sa photo. Des photos truquées, ça c'est sûr, il y en a eu. Mais s'agissant de cette vieille dame en bas de l'escalier, Mathilde Hémy a cherché et voici le résultat de sa recherche.
À aucun moment sur la vidéo ou les photos, on ne voit la vieille dame tomber. La vidéo débute après. La scène se passe au fond d'une pièce, au pied de trois marches d'escalier. La dame est à genoux, tête baissée vers le sol. Une jeune fille est penchée sur elle, lui tenant un linge sur sa tempe saignante et crie. Plusieurs personnes invectivent les quelques policiers présents à l'entrée de la pièce. L'une les accuse de lui avoir ouvert le crâne, mais rien ne permet de déterminer la raison pour laquelle cette dame est à terre. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était bien dans un bureau de vote de Barcelone, au collège Fréret, dimanche, aux côtés des indépendantistes. Il est vrai que des images antidatées circulent sur les réseaux sociaux, mais à moins que l'ambassadeur d'Espagne ait pu consulter des vidéos montrant ce qui se passe avant, il ne lui est pas possible d'affirmer que la vieille dame a chuté dans les escaliers.
Voilà, c'est dit et vérifié. La suite d'un jour dans le monde, en Guinée, dans les champs aussi du monde entier, avec des vaches, Sandy Dauphin et le feuilleton écolo. Qu'est-ce qu'elles nous ont fait, ces vaches?
Eh bien, écoutez, les vaches, les cochons et les poulets contribuent bien malgré eux au réchauffement climatique.
Et plus que ce qu'on imaginait même. On se retrouve tout à l'heure, Sandy. Merci beaucoup. La revue de presse des correspondants à suivre aussi. Restez avec nous. Merci de nous écouter. Jesse Reyes, Shutter Island.
Goodbyes are getting old. Next time you can go ahead and go. I'm tired of begging you to love me. Arguments.
Goodness gracious, you're amazing. According to you, I'm a lucky lady. Wait. So why'd you lie to me? Huh? Why you cry to sleep? Goodness gracious, I'm replaceable. Yep. You say that I'm too crazy. Yep. I guess you were right. Yep. I guess you were right. My straight jacket's custom made, though. I tried everything to say, but so why do I cry to sleep every time you try to leave? Goodness gracious, this relationship is full of so much hatred. I guess you were right. I guess you were right.
Et c'est Jessie Reyes et Shutter Island.
Power Hit Radio.
Magic FM.
Terra de la Tula.
This is a reprise for
60 minutes.
Et le retour de Florence Paracolos qui passe sous les radars pour nous ramener l'info internationale qui nous a échappé. Florence, on parle indépendantisme, mais pas en Catalogne, au Cameroun.
Le Cameroun, un seul pays, mais deux langues, le français majoritaire et l'anglais, parlé par 20% de la population dans le sud-ouest du pays, des anglophones qui, pour partie, veulent faire sécession. Et voici l'hymne de l'Ambazonie, nouvel état proclamé symboliquement dimanche par son président Sissiku Ayou, qui apparaît sur les réseaux sociaux flanqué de deux drapeaux bleu et blanc, les couleurs de l'Ambazonie.
Nous, peuple sud-camerounais, manifestons aujourd'hui pour réaffirmer notre droit inaliénable, légal et juste à l'autodétermination. Je me présente devant vous aujourd'hui pour vous le dire, nous sommes de nouveau un peuple libre. Nous ne sommes plus des esclaves, plus maintenant et plus jamais.
Voilà, c'était dimanche, jour de manifestation dans les régions anglophones réprimées à balles réelles par le pouvoir de Paul Biya. 17 morts selon Amnesty International en ce jour anniversaire de l'indépendance de 1961. Parce que pour comprendre la situation, il faut revenir à la colonisation. Le Cameroun fut d'abord une colonie allemande, puis c'est la Première Guerre mondiale, la défaite de l'Allemagne. Le pays est divisé en deux par la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Une partie sous tutelle française, une autre sous mandat britannique. Et tout le monde sera réuni au moment des indépendances en 1961. Sauf qu'aujourd'hui, les anglophones dénoncent leur marginalisation, l'hégémonie du français dans l'administration, les écoles, les tribunaux. La contestation s'amplifie depuis un an, qui ressemble aussi à une rébellion contre Paul Biya, président depuis 33 ans, une rébellion contre le chômage et la répression. Le couvre-feu diurne est entré en vigueur hier dans la principale ville du sud-ouest. La France et l'ONU appellent Biya à la retenue.
Et nous partons pour le Népal, Florence, rien à voir.
Avec une petite fille de 3 ans, Fabienne, aux yeux maquillés, aux ongles vernis, en robe rouge, dans une vidéo de Renews, on voit une femme lui embrasser les pieds avec dévotion, parce que cette petite est la nouvelle déesse vivante de Katmandou, la nouvelle Kumari, que son père a portée ce week-end jusqu'à la résidence où elle restera cloîtrée jusqu'à ses premières règles. Elle ne sortira, cette petite, que pour certaines fêtes religieuses, mais ses pieds, attention, ne devront jamais toucher le sol. Une fillette choisie par un comité de moines bouddhistes selon 32 critères physiques, adulée tant qu'elle est enfant. Quand elle devient femme, elle perd tout son prestige et doit revenir à la vie normale. Il y a encore quelques années, elle sortait sans avoir reçu d'éducation et entourée de légendes qui les empêchaient de se marier. Leur sort s'est un petit peu amélioré, mais il reste critiqué par les défenseurs des droits de l'enfant.
Allez, on quitte le Népal, on repart quelques milliers de kilomètres vers l'ouest maintenant.
Au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, au milieu d'un paysage lunaire, se dresse depuis plus de 2000 ans d'énigmatiques demeures. Ces façades rupestres, aux lignes finement ciselées, semblent avoir été arrachées au chaos de la pierre. C'est l'antique cité de Hégra, interdite aux visiteurs pendant plusieurs centaines d'années.
Ça donne envie, non, Fabienne? La cité nabatéenne d'Hégra, désormais ouverte aux visiteurs, mais ils ne sont pas très nombreux, pas beaucoup de touristes en Arabie Saoudite. Il y en a un qui en revient, Fabienne, c'est Richard Branson, le milliardaire britannique, soufflé par la beauté du site et alléché par le potentiel saoudien. Il s'est engagé à investir dans un grand projet touristique sur la mer Rouge parce que c'est l'une des priorités du prince Salman, le tourisme pour diversifier l'économie saoudienne, trop dépendante du pétrole. Il faut penser à d'autres rentrer d'argent et créer des emplois pour des Saoudiens qui sont obligés de travailler désormais. 35 000 emplois pour le projet Branson qui veut transformer une cinquantaine d'îles en stations balnéaires de luxe. Le royaume veut aussi ouvrir des parcs d'attractions pour que les touristes ne soient plus seulement les pèlerins de la Mecque. Le prince Salman veut 30 millions de touristes en 2030.
Ben, il les veut vraisemblablement. Il n'a qu'à les payer et il les aura. Florence Paracuelos, merci beaucoup.
France Inter, le 18-20.
Et nous sommes en Guinée. Plus précisément, c'est à Boké que nous sommes, c'est au nord-ouest de la Guinée. À Boké, il y a 100 000 habitants, la région est très riche, elle est riche de la bauxite. La Guinée, c'est la première réserve mondiale de bauxite qui sert à fabriquer l'aluminium, vous le savez, c'est dire si on en a besoin. Les Chinois, les Émirats, les Russes, les Français, tout le monde veut croquer. Mais la population locale, alors, eh ben, je vous laisse découvrir ce qui lui reste. Le reportage est signé Agnès Fèvre.
À Boké, la population locale peine encore à accéder à l'électricité, à l'eau. Les jeunes sont frappés par le chômage. Il y a un peu plus de deux semaines, la ville était en ébullition suite à une panne de courant. Il y a eu deux morts dans des émeutes. Ce n'est pas la première fois que Boké se révolte pour réclamer l'accès à l'électricité 24 heures sur 24, comme l'explique un de ses habitants, Ibrahima Sori Camara.
La première grève a commencé le 24 avril. On avait le courant de 19h à 1h du matin. Il y a eu une amélioration. Il y a eu le courant de 19h à 2h du matin. Maintenant, il y a eu une coupure générale. 10 jours, nous sommes dans l'obscurité. Nous n'avons pas l'électricité ni l'eau. C'est ce qui a fait que vraiment, il y a eu un soulèvement de façon spontanée.
Pour réclamer surtout
pour réclamer le courant, seulement l'électricité et l'emploi des jeunes.
Comment vous faites chaque jour s'il n'y a pas l'électricité? Comment on s'organise?
On s'organise, on ne peut pas s'organiser parce qu'il n'y a pas de courant. Même moi, je suis là, je veux travailler. Mais comment travailler? Tout ce que tu vois là, il y a beaucoup de personnes qui sont des diplômés. Mais il n'y a rien. L'État a négligé complètement. L'État est absent partout.
Vous êtes nombreux à être sans emploi ici?
Beaucoup.
Et ils sont nombreux à se manifester. Parmi eux, Kanko, 27 ans, diplômé en économie.
Il y a beaucoup de jeunes comme moi qui sont diplômés. Ils n'ont pas d'emploi. Et pourtant, il y a des sociétés ici. Hein? Et quand le recrutement qui se fait, c'est, on connaît tous. C'est par connaissance, c'est si tu as les moyens, ou bien toi tu es haut placé, ou bien c'est des recommandés. Mais tu vas travailler dans combien d'années pour pouvoir épargner, pour pouvoir construire ta vie. En tant que jeune, tu as besoin de construire, tu as besoin de fonder ta propre famille. Mais avec ça là, ça n'a rien de voir.
Près de 15 sociétés minières sont installées à Boké. Et en deux ans, la hausse de l'exploitation de la bauxite a bouleversé le paysage. Construction de nouvelles routes, de ports, de ponts, va-et-vient de camions qui transportent le minerai jour et nuit. Alors forcément, ce boom d'activité a créé une vague d'espoir qui semble aujourd'hui retomber avec fracas. Car la demande d'emploi est énorme, surdimensionnée par rapport à l'offre. Autre source de mécontentement, les dégâts sur l'environnement de l'extraction de la bauxite. Mamadou Chafaï Diallo s'occupe des questions d'environnement au Conseil préfectoral de développement de Boké. Il est aussi membre de l'Union des producteurs d'anacarde, c'est la noix de cajou.
Aujourd'hui, c'est notre environnement qui est complètement dégradé parce que nos cours d'eau sont complètement pollués, les paysans ne parviennent pas à obtenir de l'eau. Les pâturages ne font que se restreindre dû à l'exploitation minière. L'air est pollué par les poussières qui se dégagent et qui affectent dangereusement sur les rendements des cultures d'anacarde qui apportent beaucoup de revenus à nos populations. Parce que l'année dernière, la tonne d'anacarde, c'était aux environs de 15 millions de francs guinéens, soit près de 1 500 dollars.
Des rendements de noix de cajou divisés par deux en près de 3 ans à proximité des zones minières, c'est ce qu'estime Mamadou Jafai Diallo. La faute, selon lui, à cette poussière rouge soulevée par les camions qui transportent la bauxite sur des pistes de terre. Mais si les revenus des paysans sont en berne, c'est surtout parce que nombre d'entre eux ont dû céder leurs parcelles agricoles aux projets miniers. En guise de compensation, ceux-ci construisent des écoles, des centres de santé, dédommagent les populations. Mais là encore, la gestion de cette manne d'argent peut poser problème.
L'argent est très mal géré, très mal géré. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir 100 000, vous le donnez 100 millions, 200 millions, il ne parvient pas à gérer l'argent. Il n'y a pas réellement une structure qui aide nos paysans comment gérer l'argent, comment pour qu'ils ne se retombent plus dans la pauvreté, dans la précarité. Parce qu'après les mines, il faut savoir comment les populations, tout sera dégradé, l'environnement est complètement menacé, on n'aura pas où cultiver, où faire pâturer nos bœufs. Donc c'est des problèmes très, très, très sérieux pour nos populations. Donc nous avons voulu que réellement que l'État, les sociétés puissent s'intéresser réellement à ce problème pour améliorer les conditions de vie de nos paysans.
Faire en sorte que les projets miniers soient des projets durables et gagnants-gagnants, comme le soulignent les acteurs privés et l'État, on n'y est donc pas encore. Les malentendus sont là, nombreux. Favoriser la communication entre chaque partie, c'est le but de l'émission interactive Mines et Développement, chaque jeudi à 13h à Bokeh sur Espace FM.
Mines et Développement sur Radio Espace Kakandé. C'est le rendez-vous des questions minières et économiques. Une heure de débat, d'information et d'analyse sur l'actualité.
Elle est présentée par un géologue devenu journaliste, Abdoulaye Keïta.
Vous savez, lorsqu'un projet minier arrive, il y a un minimum d'études d'impact environnemental et social qui intègre, si vous voulez, l'avis des communautés sur les projets. Mais plusieurs de ces projets sont, si vous voulez, un peu parachutés, où la communauté n'a pas forcément mûri la réflexion sur les opportunités des différents projets. Donc dans l'émission, on a souvent dénoncé la frustration des communautés, le manque de communication de l'État et d'information sur les activités minières qui doivent se dérouler dans les régions. Comment voulez-vous comprendre qu'un projet vienne, il commence à exploiter, explorer, faire du dynamitage, sans que les villages ne soient préparés, outillés sur les enjeux liés à cette opération-là. Donc les communautés accordent un grand crédit à cette émission parce qu'elles estiment que la radio permet d'exposer leurs problèmes qui sont plus ou moins pris en compte par les entreprises et par l'État, mais ce n'est pas souvent facile.
L'État qui avait promis aux habitants de Bokeh fin avril de répondre à leurs besoins en électricité. Encore un peu de patience, semble leur dire aujourd'hui le ministre des Mines, Abdoulaye Magasouba.
Avec les nouvelles sociétés, les nouveaux projets, dans cette région, il y a eu un flux massif de Guinéens et même de non-Guinéens vers la région, ce qui a aussi contribué à significativement augmenter la demande en services sociaux de base. Rien qu'en 2016, semble-t-il, que la capacité nécessaire pour fournir de l'électricité à la ville de Bokeh a doublé. Et donc tout cela, nous devons accélérer le pas, bien sûr, pour pouvoir être en ligne avec cette croissance exponentielle en termes de services sociaux de base, pas seulement à Bokeh, mais bien sûr dans toutes les régions du pays qui connaissent un certain dynamisme économique.
Depuis l'accession au pouvoir d'Alpha Condé en 2010, la Guinée a engagé des réformes pour attirer des investisseurs dans le secteur minier. L'enjeu, à présent, est la redistribution des revenus tirés de ces richesses pour permettre à la population d'accéder à de meilleures conditions de vie.
Agnès Fèvre, en Guinée, pour Un Jour dans le Monde.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saintès.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série le mardi, c'est le pire et le meilleur du développement durable à travers le monde. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Et ce soir donc, adieu vos vaches cochons couvées. Je plaisante à peine, hein, parce qu'on sait que les animaux dégagent, disons-le tout net, avec leur paix, leur roux. Voilà, merci beaucoup. En plus châtiés avec la fermentation de leur digestion, ils dégagent donc du méthane. Or, le méthane est 7 fois plus réchauffant pour la planète que le dioxyde de carbone.
Oui, même un peu plus. Le nombre et la taille des bêtes a augmenté, surtout en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. Du coup, les estimations d'émanation de méthane ont été revues à la hausse par le docteur Ghassem Asrar, l'un des auteurs de l'étude, chercheur à l'Institut américain pluridisciplinaire sur les changements globaux.
Les émissions de méthane issues de l'élevage sont au moins supérieures de 11% par rapport aux précédentes estimations au niveau global. D'après nos données, l'Asie du Sud-Est en plein développement contribue plus que l'Europe, par exemple. L'Europe où les émissions de méthane là ont diminué. Nous pouvons utiliser ces données pour mieux gérer les émissions et ainsi réduire plus efficacement l'impact l'impact de l'agriculture sur les concentrations atmosphériques de méthane.
Et si l'Europe a réussi à réduire ses émissions de méthane de moins 15% en ces 20 dernières années dans le secteur de l'élevage, c'est parce que les cheptels ont diminué, mais aussi parce que les filières ont fait des efforts pour réduire les émissions.
Enfin, sauf que Sandy, on ne peut pas empêcher les vaches de rôter, pardon, et plus d'ailleurs si affinité.
Non, mais on peut modifier leur alimentation pour améliorer leur digestion. L'Institut national de recherche agronomique conçoit des régimes spéciaux pour les vaches. Jean-Louis Perrault, directeur scientifique adjoint.
Donc le premier, c'est de travailler sur les fourrages de bonne qualité. Alors ça, c'est très vrai pour les pays africains, mais c'est aussi vrai chez nous en Europe. Plus on améliorera la qualité des fourrages, plus on réduira les émissions des ruminants. Le deuxième, c'est d'avoir des additifs ou des compléments dans les rations qui inhibent la production de méthane. On a découvert par les recherches qu'un certain nombre d'aliments permettaient de réduire naturellement la production de méthane dans le rumen des animaux. Et parmi ces aliments, le plus connu et celui sur lequel on a fait le plus d'études est la graine de lin.
Pour réduire les émissions de méthane, on peut donc travailler sur ce qui rentre dans la vache, mais aussi sur ce qui en ressort, car les déjections animales contribuent aux émissions de méthane.
Quand vous avez par exemple un tas de fumier au bout d'un chemin, vous voyez qu'il y a souvent une sorte de fumée qui se dégage, c'est le méthane. Et ça, on peut le capter par contre.
Oui, on peut utiliser ce gaz pour fabriquer de l'énergie. Marc Menot est associé fondateur de Méthanor. Ce groupe finance des projets de méthanisation en France et notamment une unité dans Lyon, un estomac mécanique qui digère quelques 27 tonnes de fumier par jour.
Vous imaginez une grosse cuve avec une bâche par-dessus, vous mettez des déchets agricoles dedans. Naturellement, sans rien faire, vous avez le méthane qui se dégage. On capte le méthane et ce méthane ensuite va être utilisé comme un carburant, par exemple pour fabriquer l'électricité. Alors l'unité dans Lyon, qui a une puissance électrique de 600 kW, produit l'équivalent de 2 millions de mètres cubes par an de biogaz.
Biogaz constitué à 60% de méthane, c'est ça de moins qui s'échappe dans l'atmosphère.
Mais finalement, Sandy, si je vous comprends bien, on parle beaucoup de dioxyde de carbone, on devrait peut-être en parler moins et se méfier plus du méthane.
Oui, car le méthane, c'est 20% du réchauffement climatique. L'élevage n'est pas le seul responsable, bien sûr, c'est environ un cinquième de ses émissions. Mais l'avantage, c'est qu'on peut agir rapidement dessus, estime Philippe Bousquet, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
C'est couvrir les décharges à l'échelle mondiale, c'est améliorer le régime alimentaire du bétail, par exemple, pour qu'il y mette un peu moins de méthane, c'est changer la façon dont on cultive un peu le riz, faire de la méthanisation. On a tous ces processus qui permettraient d'atténuer les émissions de méthane sans trop changer nos modes de vie, contrairement au CO2 qui, lui, on n'a pas de solution totalement à le remplacement de la voiture à moteur à combustion aujourd'hui. Et encore une fois, avec une efficacité aussi sur le temps, puisque le CO2 reste très longtemps dans l'atmosphère. Donc si on change quelque chose pour le CO2 aujourd'hui, ça mettra des décennies à se voir. Le méthane, c'est une durée de vie de 10 ans dans l'atmosphère. Et donc, si on change quelque chose aujourd'hui, en quelques années, on verra des effets.
Et les émissions de méthane pourraient encore augmenter si dans les pays en voie de développement, on se met à manger de plus en plus de viande.
Sandy Dauphin, merci beaucoup. Il est 18h50, un jour dans le monde.
France Inter. Un jour dans le monde.
La revue de presse des correspondants commence ce soir à Moscou. Bonjour à vous, Claude Brouillot. Bonsoir.
Bonsoir.
Claude, c'est la troisième fois en 6 mois qu'Alexei Navalny se retrouve derrière les barreaux. L'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, a été condamné à 20 jours de détention administrative et cette fois pour non-respect des règles en matière d'organisation de rassemblement.
Oui, alors vous savez, entre le Kremlin et Alexei Navalny, maintenant, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Navalny a bien compris que son aura grandit maintenant dans les régions où il enchaîne les meetings pour dénoncer la corruption du pouvoir. Et le Kremlin, lui, fait en sorte régulièrement donc de ralentir cette progression. C'est ce qui s'est passé encore cette fois avec une manifestation pourtant déclarée par Navalny et son collectif à Nijni Novgorod, à 400 km à l'est de Moscou. Mais le pouvoir local n'a pas donné d'autorisation. Et au moment où l'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, se rendait sur place, il a été arrêté par la police. Alors au final, une condamnation, vous l'avez dit, à 20 jours de détention administrative qui prive Alexei Navalny de tribune samedi prochain à Saint-Pétersbourg, dans la ville même de Vladimir Poutine et qui plus est, le jour de l'anniversaire du président russe. Ce que résume en une phrase le quotidien indépendant Nezavissimaïa Gazeta, le Kremlin évite la présence de Navalny à Saint-Pétersbourg, mais Navalny, lui, profite de la médiatisation de son procès hier et travaille son image d'opposant principal.
Mais alors Claude, comment, jusqu'où quand même peut aller le bras de fer entre Navalny et Vladimir Poutine ?
Ah, écoutez, sauf coup de théâtre, beaucoup d'observateurs ici pensent que Navalny a très peu de chances d'être candidat à la présidentielle de mars prochain. La faute à une condamnation pour détournement de fonds que l'intéressé conteste d'ailleurs. Les Abissimaya Gazeta considèrent néanmoins dans ses colonnes aujourd'hui que plus le temps passe, plus Vladimir Poutine va sentir une certaine pression de la rue s'exercer sur lui. Pression avec laquelle joue évidemment Alexeï Navalny aujourd'hui et plus encore demain lorsque l'interdiction officielle d'être candidat lui sera notifiée et quand bien même les grands médias russes évitent régulièrement de parler de lui comme de l'opposant numéro un à Vladimir Poutine.
Alors cette même presse russe, Claude, tout au moins celle qui est proche du Kremlin et qui vole au secours aujourd'hui de Russia Today, que les États-Unis veulent convaincre de déclarer comme agent de l'étranger. Mais quelle drôle d'idée, dites-moi.
Oui, c'est le cas notamment de Moskovsky Komsomolets, quotidien donc proche du pouvoir, qui fait mine de s'interroger ce matin comment un petit diffuseur russe en anglais pourrait menacer la sécurité de l'Amérique, ou encore les Américains auraient-ils peur d'un autre point de vue ? Moskovsky Komsomolets oubliant un peu vite l'affaire de l'influence présumée des réseaux russes sur la campagne présidentielle américaine de l'an dernier et surtout sur la capacité notamment de Russia Today à relayer la position officielle russe au bénéfice bien sûr des téléspectateurs étrangers.
Et Russia Today qu'on verra arriver chez nous d'ailleurs également. Merci beaucoup Claude Brouillot. Nous partons pour Mexico rejoindre Emmanuel Stills. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Fabienne.
Emmanuel, chez vous, deux semaines après le tremblement de terre qui a causé plus de 360 morts, c'est encore le sujet qui monopolise les grands titres. Les répliques du séisme, elles touchent les politiques. C'est la terre qui a tremblé, mais c'est la corruption qui a tué. C'est ce que disent les médias mexicains.
Et oui, 363 morts qu'on a un peu trop vite fait d'attribuer à une catastrophe naturelle. Le journal critique, sin embargo, parle de victimes tuées par le cartel immobilier. La plupart des médias mexicains reviennent sur les nombreuses irrégularités qui émergent des décombres des immeubles qui se sont effondrés, des violations des normes de construction qui font frémir. L'éditorialiste San Juana Martinez aborde aussi dans sin embargo la façon dont le pays devra protéger l'argent de la reconstruction, alors que les rapaces sont prêts à fondre sur le butin. Des milliards de pesos en dons livrés à nos gouvernants corrompus, c'est comme demander à un groupe de vampires de gérer une banque de sang, écrit cette journaliste.
Un gouvernement, Emmanuel, et une classe politique qui sont donc pointés du doigt pour leur discrétion excessive, on va dire, suivie d'initiatives pour le moins maladroite.
Oui, une classe politique qui, au lendemain de la catastrophe, semblait avoir été aspirée dans un gouffre tellurique. 500 députés disparus d'un seul coup, pouvait-on lire sur les réseaux sociaux et dans la presse. Une allusion, bien sûr, au fait que les élus ne se sont pas montrés avant d'avoir échafaudé un plan pour récupérer politiquement la catastrophe. Il y a eu l'immense mobilisation citoyenne, une société qui aidait sans compter, et puis d'un autre côté, les partis politiques qui annonçaient qu'ils allaient donner une partie de leur dotation publique aux victimes du séisme. Le quotidien et l'Universal y voient du clientélisme électoral déguisé en solidarité et parlent d'un carambolage de démagogie. Et puis ce message posté par la présidence mexicaine sur les réseaux sociaux appelant la population à offrir des tentes et des matelas pour les sinistrés. L'acteur mexicain Gaël Garcia Bernal y a répondu sur Twitter « Avec tout ce que vous avez déjà volé, vous avez sûrement trop d'argent pour les acheter vous-même. »
Il y a un autre personnage qui fait parler de lui à nouveau dans la presse mexicaine, Emmanuel, c'est le narcotrafiquant Joaquín Guzmán El Chapo, connu pour ses évasions à répétition.
El Chapo, qui depuis son extradition aux États-Unis il y a 9 mois, est maintenu dans un régime d'isolement dans sa prison de New York. Le journal d'investigation Reporté Indigo nous apprend que l'ancien chef de cartel vient d'obtenir d'un juge l'autorisation de se réunir avec ses avocats. Il faut dire que les procureurs américains se montrent très précautionneux. Ils ont déjà écrit le scénario de sa prochaine évasion. Parce qu'il pense que si le Chapo peut accéder à une salle de visite, eh bien il va utiliser les tuyauteries et les câbles pour attaquer ses avocats, les prendre en otage et peut-être même inonder la prison. Voilà peut-être qui donnera quelques idées à l'intéressé.
Voilà, c'est bien de lui avoir mis dans la tête. Merci beaucoup Emmanuel Stille à Mexico. Et 18h55, l'édito de Sylvie Kaufmann du journal Le Monde. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir.
Sylvie, ce soir on va encore parler référendum, mais sur un tout autre sujet.
Oui Fabienne, je sais, c'est difficile à croire, mais même après le Brexit l'an dernier, même après la Catalogne cette année, il y a encore des dirigeants en Europe assez courageux, ou assez inconscients, au choix pour organiser des référendums. C'est le cas du Taoiseach irlandais. Taoiseach, vous voyez ce que je veux dire, non?
Taoiseach.
Oui, Taoiseach, cela veut dire le chef en gaélique, et c'est comme cela qu'on appelle le Premier ministre en République d'Irlande. Leo Varadkar, donc, est le Taoiseach irlandais. Il dirige le parti de centre-droit Fine Gael et il a décidé d'organiser un référendum sur la légalisation de l'avortement. La date précise n'est pas encore fixée, mais il devrait avoir lieu en mai ou juin prochain. Et inutile de vous dire que dans un pays aussi catholique que l'Irlande, même si l'Église y est beaucoup moins influente qu'avant, c'est un sujet qui reste explosif.
Mais sauf que ce Premier ministre-là, pourtant, n'est pas particulièrement, comment on dit, conformiste traditionnel.
Vous avez raison, Fabienne. Il a un profil qui tranche totalement avec celui de ses prédécesseurs. D'abord par sa jeunesse. Il a 38 ans, ce qui, dès son arrivée au pouvoir en juin, lui a valu le surnom de Macron irlandais, quand on ne l'appelle pas le Justin Trudeau celtique. Je sais, les clichés ont la vie dure. Ensuite, cela ne vous a pas échappé. Varadkar n'est pas un nom typiquement irlandais, et pour cause. Son père est un immigré indien, un médecin de Bombay, venu travailler en Angleterre, où il a rencontré une jeune infirmière irlandaise. Ils se sont mariés, se sont installés à Dublin, où est né le petit Léo, qui à son tour est devenu médecin. Et la troisième particularité de ce Premier ministre, c'est qu'il est homosexuel et qu'il l'assume. Il a fait son coming out à la télévision il y a 2 ans, lorsqu'il était ministre de la Santé, quelques mois avant que le mariage gay soit légalisé, par voie de référendum d'ailleurs.
Donc voilà un pays, l'Irlande, où les homosexuels ont le droit de se marier, mais les femmes n'ont pas le droit d'avorter.
Exactement, c'est vous dire si le sujet est difficile. Un tout petit assouplissement à l'interdiction de l'IVG a été apporté il y a 5 ans, à la suite d'un drame au cours duquel les médecins avaient refusé d'interrompre la grossesse d'une jeune femme dont la vie était en danger, sous prétexte qu'ils percevaient encore un battement de cœur du fœtus. La jeune femme était morte, et depuis, l'avortement est autorisé si la vie de la mère est menacée. Un vrai progrès.
Énorme.
Le problème qui se pose maintenant au Premier ministre, c'est précisément comment formuler la question à poser aux électeurs dans ce référendum. Est-ce qu'on va leur demander si on autorise purement et simplement l'IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse, par exemple? Ou bien est-ce qu'on se limite à assouplir encore un peu l'interdiction actuelle en autorisant l'IVG seulement en cas de viol, d'inceste et de malformation du fœtus? Et c'est là que notre jeune Taoiseach non conformiste se montre très hésitant, parce que non seulement il sait la société divisée, il n'a aucune envie d'essuyer un non au référendum, mais en plus, il doit accueillir le pape François en Irlande peu de temps après. Alors très sagement, pour l'instant, il évite de se prononcer en se limitant à dire que sa position évolue. Ça n'est pas très courageux, me direz-vous, et ça fait dire aux féministes qu'il a plus de positions sur l'avortement que de couleurs de chaussettes. Mais ça a le mérite de lui permettre de louvoyer encore un peu en testant l'opinion.
Sylvie Kaufmann, du journal Le Monde dans Un jour dans le monde.